La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans l'émission La Torah expliquée. Pendant un quart d'heure, Guy Attia, directeur du Berger d'Israël, répond aux questions que Benjamin Wagner, journaliste protestant, se pose sur la Torah.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors, ces dernières semaines, on a longuement parcouru la vie de Joseph et on a découvert des aspects complètement insoupçonnés de la vie du fils de Jacob. Finalement, toute cette histoire de famille se termine plutôt bien et les frères de Joseph se réconcilient avec celui qu'ils avaient projeté de faire mourir. Le patriarche Jacob rejoint Joseph et s'installe avec toute sa famille en Égypte. Le récit s'achève ainsi sur une note qui est positive, somme toute.
Oui, en effet, on peut le dire et on arrive au terme de notre histoire avec... Une issue finalement extrêmement positive, bien plus qu'on aurait pu imaginer. Ceci étant, avec le récit de Joseph et de sa famille, on arrive aussi au dernier chapitre de Béréchit, le livre de la Genèse. Et à ce stade, et pour bien comprendre les derniers chapitres du livre, il nous faut faire le point sur la révélation divine telle qu'elle se structure dans la Torah. Jusque-là, nous avions découvert les premiers épisodes de l'humanité, la chute de celle-ci au travers d'Adam et Ève, puis la poursuite chaotique des premiers hommes jusqu'à Abraham, à qui Dieu finalement se révèle et avec qui il établit une alliance toute particulière qui doit se transmettre de génération en génération. Et en dépit d'écarts et de trébuchements, l'alliance est finalement transmise d'Abraham à Isaac, puis d'Isaac à Yaakov, qui deviendra Israël. Ce dernier donnera naissance à 12 fils qui, ensemble, vont constituer par la suite un peuple. Alors si Béréchit nous fait découvrir une succession de révélations particulières, Shemot, c'est-à-dire le livre de l'Exode qui suit juste après la Genèse, fera un bond de 400 ans pour en quelque sorte reprendre l'alliance et les promesses, mais cette fois-ci à l'échelle d'un peuple numériquement beaucoup plus important. De la révélation particulière à des individus, nous passons à une approche résolument plus collective. L'alliance et la bénédiction se transmettaient jusque-là de génération en génération, pour ainsi dire de père en fils, au singulier du moins. Avec les deux derniers chapitres de la Genèse, nous entrons dans une autre dimension. La bénédiction et l'alliance de Dieu sont communiquées à l'ensemble des fils d'Israël, à l'ensemble des 12 fils de Jacob. Alors on peut s'en étonner peut-être quand on se souvient de la façon dont ils ont traité Joseph, leur frère, mais aussi d'ailleurs leur père.
Jacob est à présent un vieil homme. Il a été, comme on a pu le voir, un fin manipulateur une bonne partie de sa vie et a lui-même été manipulé et trompé de nombreuses fois par son beau-père, par ses femmes et même par ses fils. Que peut-on retenir de sa vie et de son exemple ?
Alors je pense que Jacob, au terme de sa vie, a pu considérer que Dieu reste le maître souverain de son histoire, à chacune des épreuves qu'il a traversées. À aucun moment, Dieu n'a perdu le contrôle de la situation, même lorsque tout semblait incroyablement compliqué et en apparence sans issue. Mais maintenant, il faut songer à l'avenir, à la transmission de l'alliance de Dieu. Il sait ses fils encore spirituellement immatures. Seuls Joseph et ses fils, c'est-à-dire Éphraïm et Ménaché, tiennent vraiment à ses yeux leur rang. C'est eux qui recevront les premiers la bénédiction du patriarche.
En effet, dans le texte, il y a comme deux bénédictions. La première, donc au chapitre 48, sur les fils de Joseph. La seconde, au chapitre 49, sur les autres fils d'Israël. Faut-il y voir un sens particulier en rapport avec l'avènement futur du Messie ?
En effet, mais dans un premier temps, lisons d'abord le texte en Genèse chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés, ici. » Israël dit, « Fais-les. Je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Un petit peu plus loin, au verset 15, « Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Curieuse conversation, n'est-ce pas ?
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Joseph emmène avec lui ses deux fils pour aller à la rencontre de son père, qu'il sait au terme de sa vie. Les emmène-t-il afin qu'ils soient bénis par le patriarche ? Sans aucun doute, mais pas forcément comme il l'imaginait. Éphraïm et Manassé viennent en quelque sorte remplacer Ruben et Siméon dans la perspective prophétique. En effet, Ruben a perdu son droit d'aînesse le jour où il est allé sur la couche de Bilha, sa belle-mère, la femme de Jacob, en Genèse 35, verset 22. Une faute, d'ailleurs, condamnable selon Lévitique, chapitre 18. Ruben, par sa faute, a méprisé la responsabilité qui était la sienne de perpétuer l'alliance. Il a commis d'une certaine façon la même faute que celle d'Ésaü dans l'affaire du plat de lentilles. Si Ruben est déchu de son droit d'aînesse, Siméon et Lévi sont également condamnables à cause de la violence dont ils se sont rendus coupables dans l'affaire de Dina à Sichem. Souvenez-vous, en Genèse 34. Lévi ne possédera d'ailleurs pas d'héritage propre dans le pays de Canaan, puisqu'il sera d'ailleurs en charge du service du culte. Quant à Siméon, il perdra, lui, de son importance et sera, pour ainsi dire, absorbé dans l'héritage de la tribu de Juda. Or, le droit d'aînesse, outre le fait de disposer d'une portion double de l'héritage, impliquait surtout la responsabilité de la transmission et Jacob choisit en définitive Éphraïm pour assurer cette responsabilité, et même de préférence à Manassé, qui est pourtant lui l'aîné. Une fois de plus, d'ailleurs, le plus jeune est privilégié à l'aîné. Jacob raconte ensuite brièvement son cheminement spirituel à Joseph, mais en fait, il le fait sans doute davantage pour les deux fils de Joseph qui sont présents. La transmission de l'alliance divine tient en quelques mots. La promesse et la terre. Alors il peut paraître curieux de raconter ici les circonstances de la mort de Rachel. Rachel, la mère de Joseph. Un récit que Joseph sans doute connaissait bien. Encore une histoire là de mort et d'inhumation que Jacob semble relier au terme de l'alliance ou de la promesse divine. Sans doute que Jacob avait considéré sa femme Rachel comme celle de toujours et celle qu'il avait aimée plus que toutes les autres. Sa mort l'avait marqué et peut-être a-t-il eu du regret de ne pas avoir pu l'enterrer dans la grotte de Marpella avec ses parents. Mais je crois qu'il faut ne pas perdre de vue le caractère prophétique de ce passage. Jacob aurait pu tout aussi bien évoquer l'annonce prophétique faite à Abraham au sujet des 400 ans en galoute, c'est-à-dire en exil, chose qui nous est racontée en Genèse 15, verset 13. Mais en fait, il n'en parle pas. Il préfère parler de Rachel. La prophétie qui est évoquée dans ce passage touche essentiellement au Mashiach, au Messie, qui doit venir. C'est ce qu'il nous faut retenir, à mon avis, de toute évidence, de la démarche de bénédiction du patriarche Jacob sur sa descendance. L'évocation d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem, n'est pas sans rappeler d'une part le lieu d'où sera issue la famille du roi David, la famille d'Isaïe, en Ruth 4, verset 22, et duquel naîtra aussi le Messie. Ephrata, c'est aussi le lieu de naissance de Yeshua, qui fait écho à la prophétie en Michée 5, verset 1. Et Matthieu en parlera en citant le prophète Jérémie au chapitre 31, un texte emblématique décrivant la nouvelle alliance avec Israël et désignant le lieu de Bethléem par le même nom de Rachel. Donc en Matthieu 2, versets 16 à 18, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Yeshua, né à Bethléem, Ephrata, est issu de la descendance de David, mais il est en quelque sorte aussi le Messie Ben Yosef, c'est-à-dire le fils de Joseph, adopté de la descendance de Joseph, tout comme le fut Ephraïm en son temps par Jacob et associé à son nom, lui le père du peuple d'Israël. Sa naissance à Ephrata relie indiscutablement Yeshua à Rachel, la mère de Joseph.
Bon, mais cela ne semble tout de même pas d'une grande évidence hein, lorsqu'on le lit.
En effet, mais la bénédiction de Jacob sur ses fils est par nature prophétique, comme on le verra d'ailleurs au chapitre 49. Et ici, le chapitre 48, avec cette bénédiction sur les deux fils de Joseph, ne fait pas exception. Mais même lorsque Joseph, d'ailleurs troublé, souhaite corriger son père, qu'il suppose confondre le plus jeune avec l'aîné de ses deux fils, à savoir Ephraïm et Manassé, eh bien Jacob, qui est pourtant aveugle, est on ne peut plus clairvoyant. Joseph est, de l'avis des Rabbanim, l'un des modèles typologiques du Messie d'Israël qui doit venir. Alors, n'avons pas le temps maintenant de nous étendre sur la nature prophétique de la bénédiction sur Ephraïm et Manassé. Mais il représente en quelque sorte la bénédiction à venir du Mashiach, du Messie, sur Israël et sur toutes les nations. Tout comme les deux fils de Joseph sont en quelque sorte adoptés par Jacob pour recevoir la bénédiction prophétique du Messie, il apparaît clairement que le Messie a un lien d'adoption avec Joseph, le modèle par excellence du Messie qui a souffert pour ses frères.
Il nous reste à voir ce que Jacob dit sur ses autres fils.
Oui, tout à fait, mais on examinera en particulier la parole de Jacob sur Judas, l'autre branche de laquelle vient le Messie.
Alors notre émission touche à sa fin. On poursuivra donc dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Et puis je vous rappelle, chers auditeurs, que l'intégralité de ces émissions, de ces textes, sont disponibles sur le site internet du Berger d'Israël, le www.lebergerdisrael.org. Au revoir Guy.
Au revoir.
Merci à vous deux Guy et Benjamin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Torah expliquée. En attendant, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet www.lebergerdisrael.org pour retrouver les thèmes développés dans cette émission.
C'était La Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.